OK, on va continuer notre série sur la sanctification. Ce soir, on est dans notre 19e leçon. Et le titre est tout simplement « Jésus dit, m'aimes-tu? » Alors, quand on lit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 21, les versets 15 à 17, ça dit « Après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Alors, est-ce que le Seigneur Jésus pouvait demander à Pierre une question plus sondante et plus utile? On sait, par nos expériences qu'on vit tous les jours, au cours de nos vies, que Dieu a implanté dans le cœur humain la capacité d'aimer. Et que c'est une très commune expérience chez tous les êtres humains. Nous devons le meilleur de nos sentiments, bien entendu, au Seigneur Jésus-Christ, un amour qui devrait être exclusif, authentique et très profond. Notre salut lui-même est lié à cette question « Aimez-vous le Christ? » La vie ou la mort éternelle, le ciel ou l'enfer, dépendent de notre capacité à répondre sincèrement à cette simple question. Nous aimerions présenter deux points en rapport avec cette question fondamentale. La première, c'est le sentiment particulier du vrai chrétien envers Christ. Alors, un authentique chrétien est beaucoup plus qu'une personne ayant été baptisée, beaucoup plus aussi qu'une personne qui va à tous ses cultes le dimanche, mais qui, le reste de la semaine, vit comme s'il n'avait pas de Dieu. On le sait, le formalisme n'est pas le christianisme. Les Saintes Écritures ne nous rappellent-elles pas, comme on peut le lire dans Romains chapitre 9, versets 6 à 8, « Ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. » Mais il est dit, en Isaac sera une postérité de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que sont les enfants de la promesse qui sont réputés être la prospérité. Alors, quand on dit que ce n'est pas Israël, tous les qui sont d'Israël, on est en train de parler de la nation. Alors, à l'intérieur de la nation, il y avait des véritables sauvés. Et à l'intérieur de l'Église, la même chose, il y en a des sauvés et des non sauvés. Israël, c'est l'ensemble de tous les sauvés, à la fois du peuple juif et à la fois de l'Église. Alors, quand il dit « car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël ». Alors, le véritable chrétien, c'est celui dont la vie, bien entendu, est transformée. On devrait voir perceptiblement, dans sa conduite, quelque chose de changé. Alors, quelqu'un qui est chrétien, normalement un vrai, il voit clairement son état de pécheur, sa culpabilité, sa méchanceté, et Dieu lui donne la repentance par sa grâce. Il voit Jésus-Christ comme son sauveur et se confie entièrement à lui. On sait que les Écritures nous enseignent que, comme chrétien, on se dépouille du vieil homme et on se revêt de l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, lui, va vivre une vie sanctifiée. On sait que comme chrétien, les Écritures nous apprennent qu'on se bat continuellement contre trois de nos ennemis, la chair, le monde et Satan. Alors demandons-lui en quoi il se confie pour le pardon de ses péchés et il vous répondra que c'est en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Quand on demande ça à un chrétien, en quoi tu te confies pour le pardon de tes péchés? Bien sûr, on ne peut pas faire autrement que de répondre en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ. Demandons-lui, à cette personne-là, le chrétien, de quelle justice il voudra être revêtu lors du grand jugement. Et il vous répondra que ce sera de la robe de justice de Christ, et non pas notre propre justice. Demandons-lui, à ce même chrétien, par quels critères il veut diriger sa vie dorénavant. Et il vous répondra que c'est l'exemple du Christ et l'enseignement des Saintes Écritures. Mais la chose la plus particulièrement éminente chez le chrétien, c'est son amour du Christ. La connaissance, la foi, l'espérance, la révérence et l'obéissance sont toutes des marques de la marche et du caractère chrétien. Cependant, toutes ces choses seraient incomplètes si nous ne mentionnions pas son amour envers le divin maître. Non seulement il connaît le divin maître, place toute sa confiance en lui et lui obéit, mais il va plus loin. Il l'aime. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 22. « Si quelqu'un n'aime point le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème, maranatha. » Alors, si quelqu'un n'aime point le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Éphésiens, chapitre 6, verset 24. « Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'incorruptibilité. » Amen. Jean 8, 42. « Jésus donc leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Car je ne suis point venu de mon chef, mais c'est lui qui m'a envoyé. » 1 Jean chapitre 4, verset 19. « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Un vrai chrétien aime le Christ pour tout ce qu'il a fait pour lui. Le Christ a souffert à sa place et est mort pour lui à sa place sur la croix. Il nous a rachetés de notre culpabilité, de la puissance et des conséquences du péché par son sang. Il nous a appelés à lui par le Saint-Esprit et à la connaissance de nous-mêmes, à la repentance, à la foi, à l'espérance et aussi à la sainteté. Il nous a libérés des chaînes du monde, du malin et de la chair. Il nous a pris au bord de l'enfer, il nous a placés sur le chemin étroit et resserré menant à la vie. Le chrétien a reçu la lumière à la place des ténèbres, la paix au lieu des tourments de l'âme, l'espérance au lieu de l'incertitude, la vie au lieu de la mort éternelle. Le chrétien se sait aimé malgré ses manquements, malgré ses chutes et malgré ses infirmités. Le chrétien a de l'amour et de la gratitude envers celui qui l'a libéré de ses dettes et de sa prison, qui l'a délivré des mains de l'ennemi et qui lui a offert une bouée de sauvetage alors qu'il était dans l'océan de la perdition. Quelle belle image! Je me souviens d'avoir déjà vu, à un moment donné, il y avait une petite brochure, puis on voyait quelqu'un qui garochait, quelqu'un qui était en train de se noyer, là, puis vraiment sur le bord de... Puis qu'on nous envoie une bouée de sauvetage, mais c'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait avec nous autres. Alors cet amour envers le Christ se reconnaît par plusieurs principes. Le premier principe, l'amour de Christ est le compagnon inséparable de la foi qui sauve. Quelqu'un qui a reçu la foi qui sauve va aimer le Christ. Ça va ensemble, ça ne se sépare pas. Luc 7, verset 47. C'est pour cela que je te dis, ses péchés qui sont nombreux sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Or, à celui que l'on pardonne peu, aime peu. Deuxième principe, l'amour de Christ est le principal ressort pour notre travail pour Christ. Prenez des biographies de missionnaires, des biographies de grands pasteurs, de personnes qui ont travaillé pour le Seigneur. C'est toujours l'amour brûlant du Seigneur dans leur cœur qui fait en sorte qu'ils sont prêts à faire n'importe quel sacrifice. Prenons Mme Henault, par exemple, Jackie Henault. Pourquoi elle est capable de faire ce qu'elle fait là? C'est vraiment spécial d'être capable de faire ça toute une vie. Si on me disait, tu vas aller passer 3 mois là-bas, je pense que je serais capable de le faire. Mais aller passer ma vie là, ça c'est autre chose. Alors si tu n'as pas vraiment l'amour du Seigneur dans ton cœur, l'amour de Christ, que tu es prêt à n'importe quel sacrifice pour répandre l'évangile de Christ dans le monde, À quelque part, l'amour, c'est vraiment, quand on dit l'amour de Christ, c'est le principal ressort pour notre travail. Quand on travaille pour le Christ, peu importe qu'est-ce que ça nous coûte, on est prêt à le faire par amour pour lui. Troisième principe, l'amour de Christ devrait être le point principal dans l'enseignement de nos enfants. Si on veut enseigner nos enfants dans le Seigneur, c'est pas les emmener trop de grands termes de théologie qu'ils comprendront pas. Parle-leur de l'amour. Ils savent reconnaître l'amour quand on leur parle de gestes d'amour du Seigneur Jésus-Christ. Quatrième principe, l'amour de Christ est le trait d'union qui unit tous les chrétiens. On peut parler avec un presbytérien, on peut parler avec un pentecôtiste, on peut parler avec différentes dénominations. Et quelque part, s'il y a un lien qui nous unit tous, des fois on va dire, oh, je ne suis pas d'accord avec toi sur telle doctrine. Alors, on est tous persuadés qu'on a la bonne doctrine. Mais quand on en vient à parler de l'amour de Christ, là on dirait que toutes les barrières tombent. Les gens qui aiment, qui sont véritablement sauvés, aiment la personne de Jésus-Christ. Il y avait une belle phrase, il y avait le monsieur dans son livre, il donne un exemple que je trouve tellement belle. Il dit, une vieille dame avec une éducation très élémentaire confiait à un éminent théologien. Alors, très peu d'instruction avec énormément d'instruction. Mais on parle de deux personnes sauvées. Alors, elle dit au théologien, je ne peux pas parler brillamment du Christ avec ma bouche. Cependant, je l'aime assez pour accepter de mourir pour lui. Ça, c'est beau. Alors, quelque part, sûrement que le théologien a compris ce qu'elle voulait dire. Puis sûrement que le théologien, parce que lui aussi, il aime le Christ, alors quelque part, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Et cinquième principe, l'amour de Christ sera la marque distinctive de tous les âmes sauvées au ciel, bien entendu. Maintenant, l'amour, elle a des marques particulières par lesquelles elle se fera connaître autour de nous. Alors, lorsque nous aimons une personne, nous pensons souvent à elle, on sait ça. Alors, Éphésiens 3, verset 17, « Et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'enraciné et fondé dans l'amour. » Alors, la raison pour laquelle un chrétien entretient des pensées quotidiennes dans son cœur envers Christ, bien entendu, c'est parce qu'il l'aime. Deuxième marque particulière, si nous aimons une personne, nous aimons en entendre parler. Quand on entend quelqu'un qu'on aime, on sait qu'il est au loin, on entend de ses nouvelles, et quelqu'un vient nous dire « Ah, j'ai des nouvelles de tel que t'aimes. » On est toujours tout oreille et on est prêt à écouter même des heures de temps. Si nous aimons une personne, nous aimons lire à propos de cette personne-là. Bien entendu, l'auteur veut nous amener à dire, si on aime Christ et que les Écritures, dans leur ensemble, nous parlent de Christ, par exemple, disons un ami, un mari, un enfant est au loin, disons dans le temps de la guerre, tu recevais une lettre, et mon Dieu, tu trouverais ça précepte. Tu pouvais la lire 50 fois, mais on aurait dit que chaque fois que tu la lisais, il y avait toujours quelque chose de nouveau. Mais les Écritures, c'est la même chose. Quand on aime Christ, on aime lire ce qui parle de lui. Et les Écritures nous en parlent d'un couvert à l'autre. Alors, on se devrait d'aimer les Écritures. Si on ne les aime pas, ou qu'on trouve qu'on les aime pas assez, il faut demander au Seigneur de briser la dureté de notre cœur. Alors, si, autre marque par laquelle on va voir qu'on aime Jésus, si nous aimons une personne, nous aimons lui plaire. On le sait. Quand disons que quelqu'un vient chez nous, on sait qu'il aime le steak, épais de même, puis il l'aime de telle manière cuit, on va faire tout en sorte pour lui plaire. On va éviter de faire certaines choses qu'il n'aime pas. On va faire des choses qu'il aime, on sait. On sait comme d'instinct, d'amour, qu'on va donner à quelqu'un des signes d'affection en faisant attention à lui plaire. Si on aime une personne, on aime aussi ses amis. Et je pense que la leçon à retenir là-dedans, c'est que si on aime Christ, ses amis, c'est les autres croyants. Donc, si on aime quelqu'un, si on aime Christ, on va aimer ses autres enfants, ses frères et ses sœurs. Autre caractéristique, autre manière dont on va reconnaître, si nous aimons une personne, nous sommes jaloux de son nom et de sa réputation. Si on est à quelque part et qu'on parle en mal contre Christ, on parle en mal contre son œuvre, on se devrait de faire la même chose que si on recevait, on voudrait briser la réputation d'un enfant, de notre épouse, de notre mari, de notre enfant. On le défendrait. Mais quand on entend parler de Christ en mal, on se devrait d'être jaloux de son nom et être jaloux de sa réputation. Si nous aimons une personne, nous aimons lui parler. On va amener quelle idée avec ça? Bien sûr, la prière. Si on aime une personne, on se devrait de faire en sorte qu'on aime venir en sa présence. On aime lui présenter nos projets, nos difficultés, nos misères. On aime parler à celui qu'on aime. Si nous aimons une personne, nous aimons être avec elle. Venir en assemblée, toutes les assemblées. Tous les chrétiens sauvés devraient être à toutes leurs assemblées. Pourquoi? Parce que les Écritures nous le disent, car là où deux ou trois sont assemblés pour mon nom, je suis là au milieu d'eux. On le dit verbalement, on dit qu'on le croit par la foi, mais si on croyait vraiment qu'il est ici, pourquoi qu'on ne vient pas? Quelque part, on se rend pas compte des fois comme à quel point on se contredit. J'ai quelques applications. Première application, regardons la question que Christ a posée à Pierre comme étant adressée à nous, personnellement. Si le Seigneur nous apparaîtrait et nous dirait, « Marcel, m'aimes-tu? » Est-ce qu'on pourrait répondre spontanément, « Ben, Seigneur, ben oui, tu sais que je t'aime. » Des fois, se fait poser la question quand on l'entend poser du Seigneur à Pierre, ça ne nous dérange pas bien, mais ça fait poser directement à nous personnellement. Là, c'est un autre pire de manche, comme on dit. Pouvons-nous dire honnêtement que nous aimons Christ? N'oublions pas que le véritable christianisme ne consiste pas en la foi seulement. Si on lit, par exemple, au deuxième chapitre de Jacques, versets 19 et 20, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Matthieu 14, versets 23 et 24. Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Deuxième application, si vous n'aimez pas Christ, laissez-moi vous en faire connaître les raisons. Premièrement, vous ne sentez pas votre dette envers lui. Vous ne croyez pas avoir des obligations envers lui. Vous ne sentez pas votre culpabilité et votre vide aux yeux de Dieu. Ne pas aimer Christ, c'est être en danger de la ruine éternelle. Priez alors que les yeux de votre entendement soient ouverts par le Saint-Esprit pour voir clairement votre état de pécheur perdu et condamné. Et votre besoin urgent que la solution à votre problème vous soit révélée, la glorieuse personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ne vous contentez plus de lectures superficielles de la Bible. Cherchez Christ dans toutes ses pages, dans un esprit de soumission et d'obéissance. Modifiez vos habitudes de prière. Que votre prière devienne remplie de ferveur. Dites à Christ, enseigne-moi à prier. Les apôtres l'ont fait. Nous aussi, il faut le faire. Troisième application, deux paroles d'encouragement et de réconfort. D'une part, voyez l'amour de Christ dans vos vies comme une évidence d'avoir reçu la grâce. Et d'autre part, n'hésitez jamais à faire connaître votre amour de Christ autour de vous et de n'avoir jamais honte de lui. Témoignez de lui, vivez pour lui, travaillez pour lui. Je termine par une anecdote que j'ai trouvée tellement intéressante. Il y avait un grand voyageur anglais qui avait rencontré un Amérindien d'Amérique du Nord qui aimait le Christ et qui n'arrêtait pas d'en parler. Alors l'incroyant lui dit, « Pourquoi faites-vous tant de cas de ce personnage et pourquoi parlez-vous tant de Christ? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? » L'Amérindien ne lui répondit pas avec des paroles. Il fit signe au voyageur de lui accorder quelques instants. Il se mit à ramasser du bois et des feuilles sèches pour pouvoir faire un feu. Il alluma un feu et attendit qu'il soit bien pris. Il trouva ensuite un ver de terre qu'il déposa dans une partie du feu. Il vit le ver se tordre sous l'effet de la chaleur. Puis, comme le ver se plaçait en position d'attendre la mort certaine, il prit un bâton et le dégagea. Le geste de l'Amérindien sauva la vie du ver. Il dit alors au voyageur, « Voyez-vous ce ver? Il était une créature qui périssait. De la même manière, je mourrais dans mes péchés, sans espérance, sans possibilité de m'en sortir moi-même, sur les bords de l'abîme éternel. Ce fut Jésus-Christ qui m'a délivré par sa grâce. » Ce fut Jésus-Christ qui me plaça, moi, un pauvre ver pécheur, près du cœur de son amour. Étranger, voilà la raison pourquoi je parle tant de Jésus-Christ et pourquoi il a tant de place dans mes propos et dans ma vie. Je n'ai pas honte de lui parce qu'il m'a tant aimé. Que le Seigneur nous accorde d'avoir un cœur, comme cet Amérindien qui aimait Christ. Par sa grâce et pour sa gloire. Amen.